Voilà. Bonjour. Bonjour, Madame Vosny Daniel.
Oui,
Bienvenue à
bonjour.
Radio Linguistica.
Bonjour.
Voilà, on est ravis de vous accueillir sur Radio Linguistica pour nous parler d'un projet assez original qu'on a intitulé Les glossaires bilingues de l'administration, entre parenthèses françaises, sous-titre Pour une compréhension réciproque. Je rappelle que vous êtes présidente des Maisons de la Sagesse.
Vice-présidente
Oui.
Barbara Cassin est la présidente.
Voilà. Barbara Cassin, nous avons déjà eu l'honneur et le plaisir d'accueillir sur Radio Linguistica il y a 2 ans de ça, à la veille de son élection à l'Académie française. Mais elle nous avait déjà parlé de vous et des Maisons de la Sagesse, bien entendu. Et peut-être que vous pourriez un peu nous piloter pour nous expliquer quel est votre parcours et quel parcours vous a amené à cette fonction de vice-présidente, et je pense aussi cheville ouvrière, c'est une thématique qu'on aime bien à la DG Traduction, pour ces institutions assez remarquables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours?
Absolument. Il se trouve que je me suis intéressée toujours aux questions de traduction. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger et mes premières véritables tentatives se sont passées en Inde où j'avais lancé deux collections à partir de l'Inde, deux collections en anglais qui étaient des traductions de textes français qui n'étaient pas connus dans le monde anglo-saxon. Donc, c'était souvent des anthologies de textes, nouvelle histoire, linguistique, etc. Celle-ci était traduite donc en anglais en Inde, publiée par Orient Longman et diffusée dans tout le monde en anglo-saxon, soit en paperback, soit en hardcover, selon les pays. Et une collection aussi avec Wiley Eastern, qui était une collection plus scientifique, en fait, sur tout ce qui était plutôt lié à l'histoire des sciences. Donc ça a été ma première expérience, qui a donné lieu d'ailleurs ensuite à des partenariats entre des chercheurs indiens et des chercheurs francophones. Ensuite, je me suis toujours en travaillant sur les traductions, j'ai découvert quand j'étais en Égypte les maisons de la sagesse, les Beit el-Hikma du monde arabe et tout ce grand mouvement de traduction qui a commencé un peu avant l'islam, à partir d'ailleurs de l'Iran, de la Perse, de Djoundi Chapour, et qui s'est un peu noyé, j'allais dire, vers le XIVe siècle en Espagne avec Al-Andalus, où la traduction a été le fer de lance de recherches scientifiques pointues. C'est là qu'on a découvert, on a fait les premières traductions en arabe des auteurs grecs. Et évidemment, à partir des traductions, qui était confronté à la réalité matérielle, puisque dans ces grandes maisons de la sagesse, à côté des centres de traduction de copies de manuscrits, il y avait les hôpitaux, les observatoires, et cette confrontation entre les textes théoriques et l'expérience, la recherche appliquée, en quelque sorte, a permis aux sciences d'avancer. Voilà, donc j'avais fait au Caire une exposition qui s'appelait Quand les sciences parlent arabe au musée des arts de l'islam. Ensuite, j'ai continué ce travail et c'est là que j'ai travaillé un plus avec Barbara Cassin en Iran, autour toujours de ces questions de traduction qui sont déterminantes aussi dans le monde persan. Et puis, je suis rentrée en France où je me suis occupée au ministère des Affaires étrangères du département patrimoine. Et là, à ma grande surprise, en me penchant sur ce dossier que je découvrais plus profondément, j'ai vu qu'en fait, l'Afrique était très peu représentée au patrimoine mondial. Il y avait très peu de sites. C'était à l'époque 7% des biens qui sont inscrits à l'UNESCO étaient africains. Et la moitié des biens qui étaient sur la liste rouge, c'est-à-dire patrimoine en péril, étaient aussi africains. Donc là, je me suis dit que franchement, il y avait un vrai problème. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi si peu de représentations africaines. Et en réfléchissant un petit peu, en mettant mon nez dans toutes les conventions de l'UNESCO, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le vocabulaire qui est utilisé dans les conventions est un vocabulaire occidental forgé par des occidentaux. Et je me suis dit, quand on traduit paysage culturel, patrimoine, valeur universelle exceptionnelle en Bambara, ça veut dire quoi? Donc là, on a commencé à travailler avec Barbara Cassin et nous avons, et avec un certain nombre de linguistes de l'ACALAN, qui est l'Académie africaine des langues, nous avons commencé à travailler sur ce vocabulaire en langue africaine et nous avons publié ensemble l'ouvrage qui s'appelle Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne. Voilà, ça c'était le tout début. Et nous avons ensuite décidé avec Barbara de créer une maison de la sagesse en France, maison de la sagesse à laquelle nous avons accolé l'intitulé Traduire pour bien montrer que notre préoccupation essentielle était la traduction. Parce qu'il existe déjà des versions contemporaines de ces maisons de la sagesse qui ont fleuri dans le monde arabo-musulman entre le 7e et le 14e. Et la plupart de ces maisons de la sagesse contemporaines s'intéressent surtout au dialogue des religions. Or, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment la traduction et comment la traduction peut être un outil de compréhension réciproque entre des cultures extrêmement différentes. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'histoire de la création de Maison de la Sagesse. Maintenant, si je peux vous dire deux mots sur Maison de la Sagesse et ce qu'on y fait, si vous voulez.
Oui, et ce savoir-faire avec les différences, qui est quand même tout un programme qui nous plaît, hein, personnellement.
Voilà. Donc, nos Maisons de la Sagesse, en fait, elles n'ont pas de portes et elles n'ont pas de fenêtres, c'est un réseau. Et un réseau de lieux, d'actions, de gens qui travaillent autour de trois dispositifs qui sont des dispositifs d'hospitalité. Et on n'oublie pas qu'en français, le mot hôte, il a deux sens. L'hôte, c'est celui qui accueille et c'est celui qui est accueilli. On a le même mot en français pour dire les deux choses. Voilà. Et ça, c'est un peu le fil rouge de notre travail. Donc, le premier dispositif, ce sont ces glossaires de l'administration française qui sont le premier geste d'hospitalité pour un étranger qui arrive. C'est le moment où il doit remplir un formulaire et dire son nom, son prénom, sa date de naissance, sa situation de famille, etc. Chose extrêmement difficile en général. Aussi bien pour celui qui arrive que pour celui qui reçoit et qui n'est pas toujours préparé à la différence des cultures. Le deuxième, je vais y revenir après, le deuxième dispositif, c'est le stade après l'accueil qui est celui de l'insertion et de la façon de se sentir à l'aise dans un pays. Et on est à l'aise en général quand on y travaille, quand on y a un rôle. Donc, c'est là que nous essayons de voir comment on pourrait faire une traduction française des banques culturelles qui sont nées en Afrique dans les années 2000, au Mali, d'ailleurs au nord du Mali, pour essayer à la fois de protéger le patrimoine tout en créant de petites entreprises génératrices de revenus. Donc, ça veut dire que nous réinterrogeons donc aujourd'hui en France, dans le cadre modeste qui est le nôtre, la notion de musée, la notion de banque, pour essayer de voir comment on pourrait donner aussi une autre valeur au patrimoine immatériel. Bon, ça, on y reviendra après, parce que c'est peut-être un peu compliqué dit comme ça. Et puis, le troisième dispositif dont s'occupe plus précisément Barbara, c'est un travail de chercheur sur les intraduisibles des trois monothéismes. Donc on prend les textes et on voit comment les mots s'enroulent dans les trois grands textes, comment on dit l'autre dans les trois grands monothéismes, comment on dit Dieu, comment on dit vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc c'est un travail extrêmement complexe, mais très intéressant, parce qu'il permet aussi de créer des espaces de compréhension grâce à la traduction et d'éviter les fondamentalismes.
Est-ce que je peux
Voilà.
vous interrompre? Parce que vous venez de dire quelque chose comme ça qui a l'air de rien, mais qui dit beaucoup. Vous dites, bon, la traduction, donc, en fait, vous faites d'abord, vous faites du bilingue, autrement dit, et vous indiquez bien, c'est ce double mouvement, le mot hôte étant lui-même à double sens. Donc, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas simplement d'essayer d'exprimer l'essence ou l'identité profonde d'une culture, mais de la mettre en relation avec une autre culture, dans un mouvement d'ailleurs qui est un mouvement de déplacement, d'immigration, d'arrivée, et un mouvement parallèle d'accueil. Donc votre traduction, elle n'est pas unidirectionnelle.
Non, absolument pas. Elle est dans les deux sens. L'idée, c'est de créer les conditions d'un échange et d'un échange à égale dignité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une langue qui aurait plus de potentiel qu'une autre. Il y a des langues qui correspondent à des cultures et à des mondes différents, et ce sont ces différences-là sur lesquelles nous travaillons. La traduction, en fait, ce qui nous intéresse dans le processus de traduction, c'est les moments difficiles. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de passer outre la difficulté, nous, on met le doigt dessus. C'est-à-dire, on met le doigt là où ça fait
Là où
trop
ça
mal.
fait mal,
Voilà. Et on se dit, bon, bah, alors là, pourquoi? Pourquoi c'est difficile à traduire? Pourquoi on est obligé de jouer des synonymes qui ne sont pas tout à fait synonymes? Et là, on commence à instaurer un véritable dialogue. Et c'est un dialogue que certains de, enfin bon, les expériences que nous avons menées avec des personnes étrangères et surtout des migrants est extrêmement valorisante pour tout le monde. Enfin, les moments où nous trouvons la petite zone d'intercompréhension est un moment extrêmement agréable, qui rend heureux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà.
la réciprocité.
La réciprocité, exactement.
Alors, donc ça, c'est une leçon de sagesse, je crois, qui est particulièrement précieuse de nos jours. Et nous avons aperçu des images, mais vous avez un glossaire et vous nous avez envoyé quelques extraits où on peut voir une tentative d'exprimer dans les deux langues, d'expliquer un certain concept pratique, parce que votre visée n'est pas simplement philosophique, ça c'est un autre travail.
C'est très
Et
fonctionnel, oui.
voilà. Et donc vous faites ça en deux langues. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? On a choisi quelques-uns, mais vous avez tout ce travail en tête.
Oui, par exemple, les premières rencontres que nous avons faites étaient avec des responsables de la mairie d'Aubervilliers. Nous avons eu une réunion avec les directeurs des départements qui reçoivent les étrangers, avec il y avait des représentants aussi de la caisse d'allocation familiale, il y avait la police municipale, il y avait tous ces gens qui racontaient comment les difficultés qu'ils avaient au moment de l'accueil des étrangers. Et on se rendait compte, pour certains, ils disaient, une dame un peu agressive qui dit, oui, mais vous comprenez, quand ils nous disent qu'ils sont tous nés le 31 décembre, on a vraiment l'impression qu'ils se paient notre tête. Nous, nous les accueillons et eux nous disent, voilà, donc ça n'est pas correct. Et il se trouve que j'étais venue avec un garçon avec lequel j'avais commencé à travailler sur le soninké et je lui dis, Abdoulaye, raconte pourquoi vous êtes tous nés le 31 décembre. Et Abdoulaye a expliqué qu'au Mali, encore aujourd'hui, en dehors des grandes villes, les gens qui vont à l'état civil pour s'enrôler, comme on dit, eh bien, souvent, ils ne peuvent pas dire exactement leur date de naissance parce qu'ils sont nés l'année des sauterelles, ils sont nés l'année de la grande sécheresse, ou bien ils appartiennent à des familles où la date de naissance doit rester secrète, parce que quand on sait tout sur vous, on peut vous jeter des sorts, on peut nuire à la famille. Et à ce moment-là, l'état civil, quand vous arrivez, met 31 décembre ou 1er janvier. Quant à l'année, en général, ils ne sont jamais très sûrs, ils disent « vers ». Ils sont nés vers 1970. Et c'est très difficile de leur faire dire « alors 70, 69, 71 ?» Voilà. Donc, voilà un exemple. Un autre exemple aussi qui était intéressant, parce que moi, je n'avais absolument pas soupçonné que ça puisse poser quelques problèmes. On arrive au mot « antécédents médicaux », ce qui se traduit facilement dans toutes les langues. Et je sentais que les traducteurs, que ce soit ceux du persan, ceux du soninké, ceux de l'arabe, étaient gênés. Ils me disent « mais tu sais, nous on n'aime pas cette question-là et en général, on s'arrange pour ne pas répondre. » Alors, on a discuté et ils me disent « dans les pays totalitaires, on peut utiliser le fait que vous soyez d'une famille de diabétiques, qu'il y ait eu tel problème dans la famille, soit pour faire du chantage sur les vôtres, soit pour vous empêcher d'accéder à un métier. » Et donc là, j'ai compris avec eux que le seul moyen de les rassurer était de parler en même temps du secret médical, qui est une réalité en France. Tout soignant est tenu au secret médical. Donc ça, c'était aussi une façon de parler avec eux. Et vous voyez un mot, on appuie sur un bouton et tombe toute une série de choses qui appartiennent à la tradition, à la culture française. Voilà, deux exemples. Et puis, dans ce glossaire, nous mettons aussi les mots qui font partie du contexte qui environne en fait l'étranger qui arrive en France. Donc, par exemple, nous avons mis des mots comme insertion, intégration, assimilation. Et nous essayons d'expliquer qu'il y a un débat en France. Ces trois mots articulent un certain nombre de réflexions et qu'il y a là des diversités d'approches que recouvrent ces trois mots. Nous avons mis aussi les mots comme le mot chronologie, parce que chronologie ou véracité des faits, pour les migrants qui arrivent à l'OFPRA, on va leur demander alors la chronologie. Bah, la chronologie, c'est aussi une affaire extrêmement culturelle. Hein, en arabe, on va vous dire boukra, boukra, c'est demain, après-demain, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est jamais. Mais ça n'est pas très précis. Et je pense aussi en hindi, par exemple, il y a un mot qui est « kal », qui signifie « hier, aujourd'hui ou demain ». C'est le même mot, c'est le contexte qui va lui donner son sens. Voilà, donc ce sont tous ces mots-là, nous les indiquons aussi. Alors, l'idée n'est pas de faire un cours pour les gens qui reçoivent ou pour ceux qui arrivent, un cours d'ethnographie de la France ou d'un autre pays, mais simplement, notre ambition, c'est de dire « attention, c'est compliqué ». Donc, c'est pour ça que nous parlons de piqûres de culture ou de clignotants. Donc, c'est l'exercice le plus difficile, parce que quand nous travaillons avec nos traducteurs, eux sont partis pour des pages et des pages d'explications. Or, il nous faut trois lignes. Donc, je leur dis, attention, seulement un clignotant. Donc, qu'est-ce que nous retenons pour dire, attention, c'est compliqué. Et puis là, la personne qui vous accueille, soit elle peut avoir envie de parler avec vous, soit aller voir sur Internet si elle trouve d'autres éléments. Voilà, c'est donc la fonction de clignotant de ces piqûres de culture que nous faisons dans le cadre du glossaire. Vous voyez, par exemple, je vois sur la page... En Iran, pour donner son adresse, on donne un itinéraire. Et là, je me souviens de la remarque de mon traducteur. Il me dit, mais il dit, tu vois, il me dit, mais toi, quand tu me donnes ton adresse, Tu commences par me donner le numéro de ton immeuble, le nom de ta rue, et puis après, débrouille-toi. Et alors,
Va demander à Google.
il me dit, tu vois, il dit, moi, quand je te donne mon adresse, je t'invite à venir chez moi, je t'explique comment on fait. Et il dit, toi, tu pars de ton nombril. Et puis après, il faut que je me débrouille si j'ai envie d'arriver. Ce sont deux conceptions de la courtoisie et de l'hospitalité. Voilà, ça c'est une anecdote amusante, mais c'est vrai que donner son adresse en Iran, c'est aussi une forme de politesse.
Donc, aller chercher l'autre là où il
Voilà,
est
exactement.
et l'accompagner. Donc, c'est un Google Maps d'avant Google. Là, je provoque un peu. C'est un itinéraire d'accompagnement. Et donc, si j'ai bien compris, c'est aussi votre visée à travers ces glossaires bilingues. On était tenté peut-être de comprendre dans cet effort une tentative de clarification, de simplification. Je dis, bon, finalement, la culture administrative française, mais je crois que parfois on est naïf, hein, est particulièrement complexe, très codifiée, donc il suffit de simplifier, tout va devenir clair. Mais je ne suis pas sûre que ce soit là la vraie dimension de votre travail.
Non, d'autant que, enfin, moi, je me méfie beaucoup du mot simplifié. Je crois que l'administration, enfin, je pense qu'elle soit française, anglaise, allemande, espagnole, elle raconte aussi l'histoire d'une société avec les avancées. On décide de faire une loi à ce moment-là, on va changer le mot. Hein, par exemple, l'OFPRA qui parlait de l'intime conviction de la personne qui accueille le migrant a enlevé le mot intime conviction et a mis véracité des faits ou enfin quelque chose de ce genre qui en fait ne change pas grand-chose. Mais voilà, on juge de la véracité de ce que raconte la personne dans son récit de migration. Mais c'est plus, on ne parle plus de l'intime conviction de la personne qui écoute. Donc, on voit bien que tout ça bouge au fur et à mesure que les mentalités bougent, que l'actualité bouge. Donc, c'est toute une histoire de nos sociétés qui s'est inscrite dans les strates, parce qu'en fait, l'administration, on se rend compte que ce sont des strates, d'où l'expression qu'on utilise parfois de millefeuille, pour parler de nos administrations. Et tout cela est assez riche. Alors, ce qui complique encore les choses, c'est que chaque domaine y inscrit sa griffe, si j'ose dire. Dès l'instant où nous sommes dans le monde du juridique, s'ajoute à l'histoire le vocabulaire des juristes.
Vous
Tout.
parliez de l'OFPRA, pardonnez-moi de vous interrompre. Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que
Alors,
l'OFPRA.
l'OFPRA, c'est l'organisation qui accueille les migrants et qui va délivrer le laissez-passer ou le visa qui leur permet de le récépissé, comme ils appellent. Voilà, qui leur permet de rester en France et de pouvoir se lancer dans le processus d'insertion à la société française.
Voilà. Et donc, vous évoquez le vocabulaire technique spécialisé quelque part de chaque administration.
Exactement, donc on a le vocabulaire du droit, ensuite vous avez le vocabulaire de la banque, ensuite vous avez le vocabulaire de la caisse d'allocation familiale. Vous avez chaque administration développe un vocabulaire et presque une grammaire, il y a un style. Et la difficulté pour nous quand nous fabriquons nos définitions, c'est d'essayer de naviguer. On va voir le mot tel qu'il est défini dans les lexiques juridiques, dans les lexiques de la caisse d'allocation familiale, dans le lexique des institutions bancaires. Et on essaie de voir comment on pourrait dire tout cela de façon compréhensible. Ça ne veut pas dire plus simple. Alors, bon. J'imagine qu'il y aura un certain nombre de critiques, que les juristes vont trouver que nous sommes passés un peu vite, que les banquiers vont pousser les hauts cris, que les gens de la sécurité sociale vont dire que tout ça manque de chair. Enfin bon, je vois très bien Mais l'idée est quand même que la personne qui lit et qui n'est pas spécialisée sache de quoi on parle. Mais de là à simplifier, je crois qu'il faut se méfier parce qu'on ne pourrait pas arriver à enlever toute cette épaisseur culturelle qui finalement fait l'intérêt aussi de nos administrations. C'est des morceaux d'histoire.
Malin.
Et ce qui serait intéressant pour l'Europe, c'est un projet que nous avions caressé à un moment, c'est de faire un glossaire qui puisse être déjà franco-allemand et peut-être trilingue, ou franco-espagnol, qui nous permettrait de voir que nos traditions bureaucratiques ne sont même pas tout à fait les mêmes au sein même de l'Europe. Voilà, et ça a été, on a commencé à travailler un peu là-dessus, et c'était très compliqué parce que dès l'instant où on met des linguistes, et c'était ce que nous avaient proposé nos collègues, donc là, on tombe dans encore un autre vocabulaire. Donc, qui va s'ajouter à celui des juristes, des banquiers, etc., c'est le langage des juristes, des linguistes. C'est pour cela que nos traducteurs sont des gens qui ont tous une expérience de la migration ou qui ont accompagné leurs parents.
Je ne comprends pas quel est ce langage des linguistes que vous évoquez.
Ben, c'est un langage extrêmement spécialisé et savant aussi. Et extrêmement scientifique, rigoureux, précis, qui va nommer un certain nombre de formes grammaticales, de voilà, c'est un vocabulaire savant, c'est une discipline scientifique qui est extrêmement utile et dont nous avons besoin, certes, mais qui est il y a une façon de regarder les choses qui n'est peut-être pas la plus immédiatement utile dans la vraie vie, de ici et maintenant, quand j'ai un formulaire à remplir.
Je soupçonne que vous parlez de la linguistique plutôt que des linguistes, mais je me trompe
Oui, la
peut-être.
linguistique, oui, vous
Qui
êtes
est une
exactement.
formalisation de la langue. Oui.
Absolument.
Oui. Alors là, je ne me lancerai pas dans ce domaine qui m'échappe largement, mais vous nous avez parlé donc des juristes, vous nous avez parlé bon des linguistes, des linguisticiens. Enfin, je ne sais pas comment on
Voilà.
les appelle. Vous nous avez parlé des policiers, des agents de la sécurité sociale, donc tout agent public qui ont à connaître des nouveaux arrivés. Et quelle est en fait la prochaine étape pour ce travail qui est déjà, je crois, pas mal avancé?
Oui, nous en sommes à la moitié. En quatre langues, donc nous avons travailler avec bon, l'arabe littéraire, parce que c'est écrit, évidemment, donc c'est plus facile pour les gens qui arrivent, même si je pense que c'est un arabe qui n'est guère parlé, par exemple, par les Soudanais, je ne suis pas sûre qu'ils puissent se débrouiller avec cet arabe-là. Nous avons le persan, le soninké, qui est la langue d'Afrique la plus répandue, du moins en France, puisqu'elle est parlée au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée, au Mali. Oui, au moins ces quatre pays-là. Donc il y a une aire soninké très, très grande. Et puis en russe. Voilà. Pour l'instant, ce sont les quatre langues. Donc, la prochaine étape, ce serait déjà d'essayer de faire un site internet pour pouvoir apporter les corrections, parce qu'il est bien évident que notre glossaire va demander un certain nombre de corrections, de mises à jour aussi, puisque la vie administrative va à un rythme assez rapide, en fait, avec sans arrêt de nouveaux mots. Et puis, ce site internet nous permettrait aussi de passer à d'autres langues. Et nous pensons aussi, alors nous avons commencé à travailler sur des petites pastilles audiovisuelles d'une minute et demie, qui seraient simplement sur nom et prénom, pour montrer que déjà donner son nom et son prénom, c'est quelque chose de difficile pour certains. Hein, il y a des tas de pays où les noms sont très très longs, ne sont pas fabriqués comme les nôtres. Donc à chaque fois, il y a déjà une première adaptation complexe et puis qui peut être aussi lié tout simplement à l'orthographe. Je pense à Hussein, quand les lettres, les voyelles brèves ne sont pas indiquées en arabe, donc vous pouvez être Hussein, Hussein, Hossein, Hossine. Et la première fois que vous écrivez ou que quelqu'un écrit pour vous ce Hussein, il faut retenir et toujours l'écrire de la même façon. Sinon, vous allez avoir quelques problèmes avec vos cartes de sécurité sociale et autres. Voilà.
Donc vous portez ce travail, donc qui n'a rien enfin comment dirais-je, d'universitaire, mais qui se veut résolument à l'usage du quotidien, vers les administrations, vers les associations
D'accueil, oui.
d'accueil, et vous allez mettre ça, on l'espère, à disposition sur Internet, en attirant l'attention. Peut-être de manière plus vaste. Je pense que Radio Linguistica est absolument ravie de témoigner de cette expérience. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont menées dans les autres États membres, hein, au sein de l'Union européenne, mais c'est une piste extrêmement riche que vous avez ouverte. Je vais devoir, Madame Rosny, vous remercier beaucoup pour ce témoignage.
Merci de nous avoir accueillis, Maison de la Sagesse, traduire. Je vous remercie à travers moi.
Voilà, on est ravis. Au revoir.
Au revoir.